Laudetur Jesus Christus.
À Gaza, 970 morts, dont un employé de l'ONU en seulement 48 heures. Une politique de bombardement massif dénoncée par une partie des Israéliens dans la rue. Ils accusent Benjamin Netanyahou de se moquer du sort des otages. Analyse avec le journaliste Charles Anderlin. Arrestation en Turquie du maire d'Istanbul et principal opposant au président Erdogan. Il a été interpellé avec plus d'une centaine de ses collaborateurs, d'élus, de membres de son parti ce matin à l'aube. Le CHP qui dénonce un coup d'état contre l'opposition. Nous irons à Ankara. Voice of America au Radio Free Europe. 27 organismes défendant la liberté de la presse ou d'expression interpellent le Congrès, l'invitant à réagir au démantèlement par l'administration Trump des médias publics américains opérant à l'étranger. Puis enfin, le monde a besoin de jeunes pèlerins de l'espérance. Le pape s'adresse aux nouvelles générations dans son message pour la prochaine journée de prière pour les vocations.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Quelle sera ce soir la nuit des Gazaouis? Le ciel sera-t-il à nouveau teinté de rouge à cause de bombardements massifs? Israël avait promis l'enfer et plus de 970 personnes sont mortes depuis la reprise des frappes. L'armée israélienne a entrepris aussi des actions ciblées à Deir el-Bala. C'est au centre de l'enclave palestinienne. Un local de l'ONU apparemment bien identifié a été pris pour cible. Aujourd'hui, l'armée israélienne dément. Mais ce n'était pas un accident, répond depuis Bruxelles un responsable des Nations Unies. Il se dit choqué et dévasté après la mort d'un de ses employés. Ce soir, Israël emprunte un ton à nouveau menaçant, promettant des mesures d'une envergure jamais vue jusqu'à présent, à moins que les otages ne soient libérés. 24 sont vivants, 34 ne le sont plus. Mais cette tonalité, cette stratégie du gouvernement ne fait pas l'unanimité. Après Tel Aviv hier soir, des dizaines de milliers de manifestants sont réunis ce mercredi à Jérusalem pour dénoncer la politique de Benjamin Netanyahou. Pour Charles Anderlin, ancien correspondant de France Télévisions à Jérusalem, ce ras-le-bol n'est pas étonnant.
Tout d'abord, c'est le ras-le-bol de la société israélienne laïque et démocratique, parce qu'il faut quand même rappeler que l'actuel gouvernement est le plus à droite, le plus religieux et le plus annexionniste de l'histoire d'Israël. En fait, tout est lié. Non seulement le gouvernement a cessé l'application de l'accord de cessez-le-feu qui devait conduire à une phase 2, permettant un cessez-le-feu de longue durée, l'arrêt de la guerre et un échange beaucoup plus important d'otages et de prisonniers. Maintenant, la guerre a repris. Cela se passe au moment où la coalition parlementaire de droite, d'extrême droite, avec les ultra-orthodoxes, a relancé la mise en place d'un nouveau régime autoritaire. Il s'agit tout simplement de réduire les pouvoirs de la Cour suprême. Cette protestation contre l'abandon des otages par le gouvernement, en dépit de tout ce que le gouvernement raconte, c'est lié également au changement de régime en Israël.
Des propos recueillis par Olivier Bonnel, Charles Anderlin, qui sera l'invité de notre dossier demain matin. Et puis ce soir, le roi de Jordanie dénonce la reprise des frappes à Gaza dans un contexte humanitaire déjà désastreux. Abdallah II, reçu à Paris par Emmanuel Macron, le président français, estime pour sa part qu'il n'y aura pas de solution militaire israélienne à Gaza. Le Hamas, malgré les frappes, reste lui ouvert, dit-il, aux négociations. En Turquie, l'opposition dénonce un coup d'État et des foules se sont rassemblées dans les grandes villes du pays devant les bureaux du Parti républicain du peuple. Ce matin, à l'aube, le maire d'Istanbul, élu de ce parti, Ekrem İmamoğlu, a été arrêté avec une centaine de personnes. Le plus grand rival du président Erdogan est accusé à la fois de terrorisme et de malversation financière. Une manœuvre politique pour ses sympathisants. Le reportage de notre correspondante Anand Lauer à Ankara.
De la colère sur les visages, des slogans combatifs, tous ensemble contre le fascisme, les partisans du CHP sont venus dire qu'ils n'acceptent pas l'arrestation du maire d'Istanbul et plus généralement ce qu'est devenu leur pays, comme Gülten, une retraitée à l'écharpe rouge.
S'il n'y a pas de démocratie, à quoi ça sert d'organiser des élections? Si c'est pour arrêter, pour destituer ceux que nous avons élus, on en a ras-le-bol. Ça suffit, ça suffit, ça suffit.
Dans cette foule, personne ne semble abattu. Ils disent tous qu'ils gardent espoir, que le régime actuel, cette répression toujours plus forte, ne sont pas tenables. Nihat, un fonctionnaire.
On résistera coûte que coûte. Ce parti a bien résisté au coup d'état militaire de 1980. Là, c'est pareil. Ils ne nous feront pas plier.
Et pourtant, plus qu'avant, certains refusent de parler au micro ou mettent en garde ce qu'ils font. Metin est déçu de l'affluence devant le siège du CHP.
On aurait dû être des dizaines de milliers. Le pouvoir a réussi à instiller la peur. alors que tout ce dont il est question, c'est de défendre notre droit et notre voix.
Malgré l'incertitude sur le sort des clans Imamoglu, le CHP assure maintenir la primaire qui doit avoir lieu dimanche pour le désigner comme son candidat à la présidentielle. À Ankara, Alain Deloire pour Radio Vatican.
De la disgrâce à la presque camaraderie, Donald Trump peut y avoir eu un très bon appel avec son homologue ukrainien. Les discussions sur la bonne voie, estime le président américain, qui défend un cessez-le-feu de 30 jours. Les États-Unis devront assurer le contrôle de la trêve partielle, affirmé ce matin Vladimir Zelensky. Partielle, car le président russe n'a consenti qu'à la suspension de ses frappes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Vladimir Poutine qui a tenu parole hier au chef de la Maison-Blanche. 372 prisonniers de guerre ont en effet été échangés ce mercredi entre Kiev et Moscou. Et puis alors que l'administration Trump signe son rapprochement avec le Kremlin, l'Union européenne formalise son réarmement d'ici 2030 avec un livre blanc, une sorte de mode d'emploi à destination des 27 pour les aider à renforcer leur capacité de défense. Aux États-Unis, les membres du Congrès interpellés cet après-midi par 27 organisations de défense de la liberté de la presse, d'expression ou encore du journalisme dans une lettre commune. Celle-ci souligne le rôle essentiel des médias publics internationaux financés par les États-Unis après l'annonce soudaine vendredi dernier de l'administration Trump d'en réduire les opérations au strict minimum, ses coupes et la mise en congé administratif des salariés, par exemple de Voice of America, signent la fin d'une certaine époque du soft power américain, estime Reporters sans frontières. On écoute sa directrice éditoriale, Anne Bocandé.
On parle de VOA, mais on est aussi très inquiet pour Radio Free Europe et pour d'autres médias de cette sphère-là qui émettent parfois dans des zones où la liberté de la presse est clairement pas garantie et où c'est des voix vraiment d'indépendance qui peuvent émettre sur ces territoires-là. On pense à Birmanie, au Vietnam, au Cambodge et dans plein d'autres endroits encore. Et puis, qui marquent leur importance de par exemple, on le voit en Afrique subsaharienne où VOA, par exemple, est aussi diffusée dans différentes langues locales. Donc, c'est vraiment un média qui est intégré aussi sur le territoire, qui a aussi différents partenariats avec les médias locaux. Il faut savoir que c'est des médias, par ailleurs, qui sont composés d'équipes de journalistes locaux, puisque parfois il y a cet imaginaire que c'est des journalistes américains partout à travers le monde, mais c'est pas le cas. C'est des équipes, le plus souvent des équipes locales. Donc nous sommes profondément inquiets, profondément préoccupés. Évidemment, nous exprimons notre solidarité avec nos confrères et nos consœurs qui sont touchés par cette décision violente et brutale.
Des propos recueillis par Delphine Allaire. Au Vatican, on prie toujours pour le pape François comme chaque soir. Ceux qui le souhaitent peuvent se joindre à la récitation du chapelet place Saint-Pierre, à suivre en direct sur notre site vaticannews.va. À partir de 19h30, il sera ce soir animé par les membres du tribunal de la Rote. Le pape reste hospitalisé au Gemelli mais semble aller mieux. Un bulletin de santé devrait être publié ce soir. En tout cas, François travaille en cette année jubilaire dominée par le thème de l'espérance. On le sait, son message pour la prochaine journée de prière pour les vocations qui aura lieu le 11 mai a été publié ce mercredi. François revient sur l'accueil que l'on doit réserver à la vocation, le Saint-Père s'adresse tout d'abord, avant tout, aux jeunes. Xavier Sartre.
Pour que l'Église soit toujours vivante et féconde, il faut qu'elle engendre de nouvelles vocations. Pour cela, les jeunes tout particulièrement sont appelés par le pape à sortir d'eux-mêmes pour s'engager sur un chemin d'amour et de service. Selon François, ils ne peuvent pas ignorer le cri de nombre de frères et sœurs qui se sentent exclus, blessés, abandonnés. Toute vocation ouvre à la mission d'être présence du Christ, là où il y a le plus besoin de lumière et de consolation, écrit-il. Invitant à prendre en exemple les saints et bienheureux, surtout ceux de notre temps comme Carlo Acuti, il incite à répondre à cet appel de Dieu. Il faut réussir en somme à faire comme ces hommes et ces femmes, à vivre sa vocation comme un chemin vers le bonheur complet en relation avec Jésus vivant. Dans un monde qui pousse à faire des choix hâtifs, le pape exhorte aussi à avoir le courage de s'arrêter, d'écouter en nous-mêmes et de demander à Dieu ce qu'il rêve pour nous. Le silence de la prière est indispensable pour lire l'appel de Dieu dans notre histoire et pour y répondre librement et consciemment, précise-t-il. L'Église est appelée à accompagner ces jeunes dans leur recherche et leur discernement, car le parcours de recherche n'est jamais solitaire, il se développe au sein de la communauté chrétienne et avec elle. La vocation n'est jamais un trésor enfermé dans le cœur, mais elle grandit et se renforce dans la communauté qui croit, aime et espère.
Xavier Sartre, un message à retrouver sur notre site internet. Vous pourrez également lire la catéchèse préparée par le pape en ce jour d'audience. François commente la rencontre de Jésus et de Nicodème. Et puis enfin, pour l'évêque de Goma, vous l'entendiez ce matin sur nos ondes, le dialogue est le seul chemin pour parvenir à la paix à l'est du Congo. Hier, Félix Tshisekedi, le président de la RDC, rencontrait le président rwandais à Doha pour parler d'un cessez-le-feu au Kivu, des tractations salué par l'Union africaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité revient demain matin à 8h30. Excellente soirée à tous.